Flash.
Il est 6h, bon réveil. Les infos avec Valérie Blum. Bonjour Valérie.
Bonjour. On l'a appris hier lors d'une conférence de presse, la Confédération, l'État du Valais et l'ASPDG, l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la patrouille des glaciers, ont trouvé un accord. Ils ont signé une feuille de route pour l'organisation des 4 prochaines éditions de la prestigieuse épreuve de ski alpinisme en 2022 et 2028. C'est une nouvelle fondation pilotée par le canton du Valais qui reprendra la main sur l'organisation de l'épreuve en partenariat avec l'armée. On se souvient que l'ASPDG a été secouée ces dernières années par diverses affaires, notamment concernant la rémunération de certains membres de son comité. Maintenant, les polémiques nées de ces affaires laisseront-elles des traces au sein de l'armée? Question posée au divisionnaire Yvon Langel, commandant de la division territoriale 1 dont dépend la PDG.
Agilité, flexibilité, capacité d'adaptation, regarder en avant. La rancune ne sert à rien. S'il y en avait, à mon avis, au niveau de l'armée, on a toujours été vraiment solidaires. C'est aussi quelque part dans nos gènes. Et je crois que maintenant, on doit vraiment regarder dans le futur avec un nouveau partenariat. Et puis penser à ces 4, 5, 6 000 participants qui vont s'annoncer nationaux et internationaux. Et puis un engagement militaire qui va être vraiment important, dans lequel une plus-value certaine est à rechercher.
Yvon Langel, interrogé par Yves Terrani, a noté que la SPDG transférera la majeure partie de sa fortune ainsi que la marque et autres propriétés intellectuelles à la nouvelle fondation, fondation dont le comité sera nommé par le canton du Valais. La personne qui a été emportée le 13 juin dernier dans une avalanche dans le haut du Val de Bagne a été retrouvée. Les secouristes ont localisé le corps dimanche après-midi sous une masse de neige. La victime est un Valaisan de 36 ans domicilié dans la région. Le ministère public a ouvert une instruction. Le canton de Vaud aimerait mettre en place un conseil de la magistrature. Si le mot est assez connu chez ses voisins, il s'agirait d'une première pour la justice vaudoise. La démarche a notamment été motivée par la tragique affaire Claude D, la gestion par l'injustice de ce criminel récidiviste. Celle-ci avait été vivement critiquée au Grand Conseil vaudois et par les commissions chargées de surveiller la justice. Depuis une dizaine d'années, l'idée a donc fait du chemin. C'est ce qu'explique Jean-Luc Schwar. Il est directeur général des affaires institutionnelles et des communes au sein du canton de Vaud.
On a fait l'expérience d'une loi sur la haute surveillance du tribunal cantonal en 2011, avec les problèmes qu'on a connus quelques années après dans le cadre du drame de Payerne. Il s'est avéré nécessaire de revoir cette haute surveillance, de réfléchir à quelque chose et à la création d'un organe qui permettait de mieux garantir l'indépendance juridictionnelle des tribunaux et la séparation des pouvoirs. C'est aussi des organes qui ont été mis en place dans tous les autres cantons qui nous entourent et à l'étranger et qui ont été fortement recommandés par les experts qu'on a consultés. Et puis en 2015, il y a une consultation publique qui avait été menée sur le principe de l'institution d'un conseil de la magistrature. Ce qu'il en était ressorti, c'est qu'il y avait une majorité d'organes consultés, et notamment au Grand Conseil, pour dire maintenant il faut aussi instituer un organe de ce type-là dans le canton de Vaud.
Le futur organe sera composé de 9 membres, dont des juges cantonaux, des procureurs et même des représentants de la société civile. Le projet de conseil de la magistrature passera devant les députés vaudois au début de l'année prochaine. Le peuple sera ensuite amené à se prononcer sur cette modification de loi cantonale, un sujet de Joël Espy. Du greenwashing, voire une tromperie à l'encontre de la clientèle. C'est ainsi que Greenpeace s'attaque aux fonds qualifiés de durables. L'ONG a présenté hier une étude réalisée par une agence de notation qui a passé au crible une cinquantaine de produits proposés par des banques en Suisse et au Luxembourg. Résultat, les fonds censés prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne présentent presque pas d'avantages par rapport aux fonds conventionnels. Ils n'empêchent pas, par exemple, d'investir dans des énergies fossiles. En cause, la complexité du système associée à un manque de définition de ce qu'est la durabilité. Les explications de Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse.
Beaucoup d'entreprises ont des activités dans différents domaines, donc vous pouvez par exemple avoir des fonds qui vont investir sur de la production d'énergie renouvelable, mais auprès d'entreprises qui n'ont toujours pas abandonné le charbon pour la production d'électricité. Il y a ainsi une classification en fait des activités durables qui doit émerger, et c'est pour ça qu'il faut une définition commune en fait de ce que c'est que la durabilité, et puis il faut beaucoup de transparence sur ces sujets-là. Voilà, c'est une nouvelle dimension en fait dans l'investissement qui est complexe et qui complexifie l'activité de ces fonds de placement, et c'est pour ça que nous on appelle en fait aujourd'hui les autorités politiques à imposer une norme minimale, des critères minimaux en fait pour définir ce que c'est qu'une activité économique durable et quels sont les fonds qui peuvent effectivement porter l'appellation durable.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Greenpeace demande une réaction urgente des autorités et de la branche. Pour l'ONG, il s'agit de préparer l'économie de demain, plus respectueuse de l'environnement, sans pour autant sacrifier les critères de rentabilité. À l'étranger, le président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de ses gonds lors d'un point presse hier. Il a demandé à une journaliste de la fermer, qualifiée de merde le groupe Globo, plus grand conglomérat de médias du pays. La journaliste lui rappelait notamment qu'il s'était vu infliger des amendes dans plusieurs États brésiliens pour avoir pris part à des rassemblements sans masque de protection. « Je vais où je veux, comme je veux, d'accord. Si vous ne voulez pas porter de masque, n'en portez pas », a-t-il poursuivi avant de retirer le sien soudainement. Ce n'est pas avec des cris ou de l'intolérance que le président va empêcher ou limiter le travail de la presse, a réagi le groupe Globo dans un communiqué. En course à pied, deux Chablaisiens ont inscrit leur nom au palmarès du premier trail du Gramont samedi dernier. Pierre Mettant et Tobias Denet ont dominé la concurrence sur le course en relais. L'athlète d'Eviona et le Morginois ont bouclé le tracé de 27 km et 1600 mètres de dénivelé positif en près de 2h et 19 minutes. Ils se sont imposés avec 2 minutes d'avance sur leur plus proche poursuivant. Avec cette victoire à Saint-Gingolf, les deux membres de l'équipe de Suisse de ski alpinisme se sont rassurés. Alors qu'ils sont en pleine préparation estivale, Pierre Mettant et Tobias Denet espéraient terminer à la première place.
On va être honnête, enfin, moi je n'étais pas venu ici pour faire deuxième. C'est quand même la première course à pied sérieuse depuis un certain temps où moi je m'étais quand même bien préparé pour aujourd'hui.
On peut le dire, effectivement, l'objectif c'était de finir ici, de franchir cette ligne d'arrivée en première position aujourd'hui.
Oui, honnêtement, comme il disait Pierre, on va pas se le cacher, on était venu là pour essayer de jouer la gagne. Quand j'ai vu Pierre arriver en première, je me suis dit bon, maintenant faut que j'assume, lui il a fait sa part du boulot. Alors j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais et puis ça a passé, donc on est content. Ouais.
Dans la catégorie solo, ce premier trail du Gramont est revenu au Lausannois Dorian Marshall. Côté féminin, c'est la Neuchâteloise Nathalie Geyser qui a triomphé, un sujet signé Julien Traxel. Et en tennis, les blessures continuent de perturber la carrière de Stan Wawrinka. Le Vaudois a dû se faire réopérer du pied gauche. Il l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux en postant une image dans son lit d'hôpital. Le dernier match du droitier de Saint-Barthélemy remonte à début mars et une défaite face au Sud-Africain Lloyd Harris. Le 30e joueur mondial n'a disputé que 6 matchs cette année sur le circuit. Il s'est fait opérer fin mars et avait ensuite déclaré forfait pour Roland-Garros, Wimbledon et les JO de Tokyo.